Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Les femmes à la une ce matin, visages parfois masqués mais seins nus, des milliers de Chiliennes ont une nouvelle fois manifesté hier contre le harcèlement et les agressions sexuelles dans les universités, contre le machisme de toute une société. On nous tue, on nous viole et personne ne fait rien. No es no, non c'est non, pouvait-on entendre à Santiago. En Espagne, le socialiste Pedro Sánchez a présenté hier son gouvernement pro-européen et majoritairement féminin, avec 11 femmes et 6 hommes comme ministres.
Emmanuel Macron a bien bénéficié de ristournes de la part d'entreprises lors de sa campagne présidentielle. C'est une enquête exclusive de la cellule investigation de Radio France. Y a-t-il matière à faire bouger les conclusions de la commission des comptes de campagne ? Élément de réponse dans un instant.
La contrefaçon ne faiblit pas dans le monde. Elle fait perdre plus de 6 milliards aux marques françaises d'après une étude européenne. Elle entraîne également beaucoup de pertes d'emplois. C'est ce que nous dira Jean-Marc Chardon dans son billet économique à la fin de ce journal.
Et puis la question du jour qui est une affirmation, vous allez bientôt pouvoir entendre Catherine Dutu dans une enceinte connectée, soit, mais alors quels sont ces nouveaux usages ? Y a-t-il des menaces sur la vie privée ? On posera la question à Mustapha Zouinar, professeur associé au CNAM.
Au départ, elle dénonçait le harcèlement et les violences sexuelles à l'université de Valdivia, au sud du Chili. Depuis mi-avril, le mouvement de protestation des étudiantes a fait tache d'huile dans tout le pays, d'une ampleur inédite dans un Chili très catholique. Elles étaient près de 20 000 hier à descendre dans les rues de Santiago, la capitale du Chili, pour protester une nouvelle fois contre le sexisme et un machisme tenace dans la société chilienne. Le reportage à Santiago de Justine Fontaine.
Alerta, alerta.
Le patriarcat va tomber et le féminisme vaincra, le machisme tue, ou encore mon professeur est un agresseur. Voici ce que crient les manifestantes sur l'Alameda, la principale avenue de Santiago. Valentina Sanchez, étudiante en médecine vétérinaire, est venue une nouvelle fois protester contre le harcèlement sexuel à l'université.
Il y a eu un cas de harcèlement sexuel dans ma faculté il y a 3 ans. Et on vient d'apprendre que le doyen a protégé le professeur qui était accusé et que l'étudiante qui l'a dénoncé a été menacée. Il a finalement été expulsé, mais pour faute éthique et pas pour harcèlement sexuel.
Depuis le début du mouvement, fin avril, la parole se libère. De nombreux cas comme celui-ci sont révélés chaque semaine dans les universités et même les lycées. Aujourd'hui, c'est un sujet de débat national, comme en témoigne Arantxa Vázquez, qui étudie pour devenir professeur d'espagnol.
Ce n'est plus un sujet marginal ou secondaire. Maintenant, on en parle en famille, à table. Cela restera dans l'histoire, ici et plus tard. On parlera de cette vague féministe qui a créé toute cette effervescence.
En réaction à la mobilisation, le président de droite, Sébastien Piñera, a proposé fin mai d'inscrire l'égalité homme-femme dans la Constitution. Et il a demandé l'examen en urgence de plusieurs projets de loi liés aux droits des femmes. Pas de quoi toutefois convaincre les étudiantes qui considèrent que le président n'a pas pris en compte leurs revendications. Elles demandent la démission du ministre de l'Éducation ou encore l'adoption d'une loi globale contre les violences sexuelles.
Justine Fontaine à Santiago du Chili pour France Culture. Les femmes dans la rue donc à Santiago, à l'honneur par ailleurs dans le nouveau gouvernement socialiste en Espagne. Pedro Sánchez a présenté hier son équipe résolument pro-européenne, loin des populistes eurosceptiques au pouvoir en Italie, loin du Royaume-Uni, en route vers le Brexit. Pour tourner la page du conservateur Mariano Rajoy, Pedro Sánchez a ouvert hier son équipe à la société civile et accordé donc une place prépondérante aux femmes. La correspondance à Madrid de Mathieu de Taillac.
La composition du gouvernement de Pedro Sánchez envoie une série de messages politiques. Il y a d'abord la question des femmes, bien sûr. Elles sont nombreuses, 11 sur 17, et elles sont puissantes à la tête de ministères clés. Il y a aussi la position pro-européenne. L'Europe est notre nouvelle patrie, a lancé Sánchez en présentant son gouvernement. Le ministre des Affaires étrangères, Josep Borrell, ex-président du Parlement européen, est un europhile convaincu. La ministre de l'économie, Nadia Calviño, était hier encore directrice générale du budget à la Commission européenne. Les engagements seront honorés et les objectifs tenus. Il y a ensuite les équilibres espagnols. La Catalogne est doublement représentée, à l'extérieur par Borrell, très anti-indépendantiste, et dans le pays par Meritxell Batet, ministre de la politique territoriale, autant dire de la question catalane. Il y a des ministres andalouses, des galiciens, une basque, quelques castillans et madrilènes, des proches de Sánchez, mais aussi d'autres qui avaient misé sur un autre candidat aux primaires. Il y a beaucoup de socialistes, mais il y a aussi des indépendants, une procureure à la justice, un astronaute à la science, un juge que l'on croyait conservateur à l'intérieur, un journaliste et écrivain déjà critiqué, à la culture et au sport. De savants équilibres, en somme, qui devront résister à la fragilité d'un parti socialiste étroitement minoritaire au Parlement.
Et le nouveau chef du gouvernement, le socialiste Pedro Sanchez, doit prêter serment aujourd'hui devant le roi Felipe VI. Et les femmes se sont vues confier tant de Marocains que la presse espagnole se demande si le conseil des ministros, des ministres au masculin, ne devrait pas être rebaptisé des ministras au féminin. Un nouveau drame de la migration. 46 personnes, des Éthiopiens vraisemblablement, sont morts noyés après avoir traversé le golfe d'Aden, près du Yémen. Leur navire a chaviré en raison des hautes vagues. 16 personnes sont toujours portées disparues. C'est ce qu'indique l'agence de l'ONU pour les migrations. Un CRS a été blessé hier à Calais par un projectile lancé par des migrants qui voulaient monter sur des camions en partance pour l'Angleterre. La situation est toujours tendue dans le Calaisis, un an et demi après le démantèlement de la jungle de Calais. Quel est le quotidien des migrants dans la ville portuaire? Très difficile selon l'association L'Auberge des Migrants qui, dans un rapport publié hier, dénonce une forme de harcèlement de la part de l'État et des forces de l'ordre qui multiplient les opérations d'évacuation qui confisque ou dégrade des biens de migrants. Reportage à suivre dans le journal de 7h30.
7h06 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu, des salles à prix cassé, de la location de matériel offert, des logiciels en promotion. Une enquête de la cellule Investigation de Radio France révèle qu'Emmanuel Macron a bénéficié pendant sa campagne de ristournes, parfois conséquentes, de la part de plusieurs entreprises.
Mediapart avait déjà révélé que le géant de l'événementiel GL Events avait accordé des remises généreuses à l'actuel président. En fait, cette société est loin d'être la seule. C'est ce que vous avez constaté, Élodie Guéguin, en épluchant avec Sylvain Tronchet les comptes du candidat Macron.
Prenez l'entreprise Eurydice, un pilier de la campagne Macron qui a assuré la technique de nombreux meetings. Selon nos calculs, elle a accordé jusqu'à 26% de remise sur certaines factures et en tout, ce sont plusieurs dizaines de milliers d'euros qui ont ainsi été économisés par le candidat Macron. Autre exemple, Nation Builder, c'est un logiciel indispensable aujourd'hui pour les campagnes électorales. On a découvert que cette société américaine a consenti un rabais de 30% à l'actuel président. Et puis il y a des salles qui ont été louées à petit prix, comme le théâtre Bobino à Paris, 3000 euros la soirée. Quand nous avons voulu obtenir un devis pour un événement comparable, on nous l'a proposé 10 000 euros plus cher. Son propriétaire Jean-Marc Dumontet est un soutien affiché d'Emmanuel Macron, mais il conteste lui avoir fait un prix d'ami. Ces ristournes n'ont en tout cas pas attiré l'attention de la Commission nationale qui a validé ses comptes. Contactée, elle explique que de toute façon, elle ne peut plus rouvrir ce dossier.
Prix cassé, ristourne cachée, les petits arrangements de la campagne d'Emmanuel Macron, c'est le titre de l'enquête d'Élodie Guéguin et de Sylvain Tronchet de la cellule Investigation de Radio France. Dossier complet, factures à l'appui, à découvrir sur franceculture.fr. Hier, l'Élysée s'est refusé à tout commentaire, expliquant que les comptes du candidat Macron avaient été validés par la Commission nationale des comptes de campagne. Emmanuel Macron, qui est au Canada depuis hier soir, avant l'ouverture du sommet du G7 demain, déjà, qui s'annonce déjà attendu avec les surtaxes imposées la semaine dernière par les États-Unis sur l'acier et l'aluminium en provenance notamment de l'Union européenne et du Canada. Le président français et le premier ministre canadien Justin Trudeau ont tous deux convenu hier qu'ils n'étaient pas prêts à tout accepter pour avoir un communiqué commun à l'issue de ce sommet du G7 avec les États-Unis. Pas accepter notamment un communiqué collectif qui ne mentionnerait pas l'accord de Paris dont se sont pourtant retirés les États-Unis. 14e épisode de grève en pointillé à la SNCF. La direction prévoit en moyenne 7 TGV sur 10, un TER et un intercité sur 2, ainsi que 3 transiliens sur 5 en circulation aujourd'hui. Quant au syndicat de cheminots, ils se retrouvent cet après-midi pour envisager les suites à donner à leur mouvement après l'adoption avant-hier par le Sénat du projet de loi de réforme ferroviaire qu'ils combattent. L'unité syndicale semble d'ailleurs de plus en plus précaire, Raphaël Ebenstein.
Pas question d'arrêter la grève, assurent encore les syndicats. Ils vont même annoncer ce qui est présenté comme un nouveau point d'orgue de la mobilisation, une journée de la colère cheminote mardi prochain. Mais l'ambiance promet pourtant d'être un peu tendue entre ceux qui ont déposé des amendements au projet de loi adopté au Sénat et ceux qui le leur reprochent. Éric Meyer de Sudrail veut ainsi interpeller la CFDT et l'UNSA.
On ne peut pas avoir d'un côté une posture ferme de refus de l'ouverture à la concurrence, du refus du changement de statut juridique et de l'autre côté des négociations sur la dépose d'amendements.
Des critiques d'ores et déjà balayées par Florent Monteiller, secrétaire fédéral de l'UNSA Ferroviaire.
Nous ne pensons pas à l'UNSA Ferroviaire qui a des contradictions à être dans un mouvement social, à installer et instaurer un rapport de force et continuer à échanger, continuer à dialoguer. On le fait officiellement et on l'affirme.
Et l'UNSA pourrait rallier les autres syndicats à l'une de ses propositions, suspendre la grève au moins le 18 juin, le jour des premières épreuves du bac, pour ne pas trop pénaliser les lycéens.
Eux réclament un environnement viable pour les colonies d'abeilles. Les apiculteurs qui constatent une hécatombe chez les pollinisateurs depuis la sortie de l'hiver, les apiculteurs manifestent dès 10h ce matin, place des Invalides à Paris, direction l'Élysée. Des rassemblements sont également prévus à Strasbourg, La Rochelle, Périgueux ou encore à Quimper. Les apiculteurs réclament un plan de soutien exceptionnel, notamment pour lutter contre les néonicotinoïdes, ces insecticides considérés comme des tueurs d'abeilles. Le PDG de Lactalis doit s'expliquer ce matin devant les députés à l'occasion d'une commission d'enquête parlementaire censée faire la lumière sur les dysfonctionnements de l'entreprise qui aurait contaminé 37 nourrissons à la salmonelle via du lait infantile. Emmanuel Beignet, qui apparaît notoirement très peu dans les médias, aurait bien voulu échapper à cet interrogatoire. Ses avocats, en tout cas, ont tenté de lui éviter cette épreuve. Peine perdue, Anne Lorchouin.
Emmanuel Beignet sera bien présent ce matin devant les députés de la commission d'enquête chargée de tirer les enseignements du scandale de la salmonelle. Et c'est peut-être pour éviter de nuire encore plus à son image que ses avocats ont finalement cédé. On rappelle que le PDG de Lactalis a la réputation d'être très secret au point de ne pas vouloir publier ses comptes alors que la loi l'y oblige. Mais la défense de Lactalis avait effectivement tenté d'interrompre les travaux des députés en demandant le 26 avril dernier à la ministre de la Justice d'intervenir auprès du président de l'Assemblée nationale, au motif qu'une autre enquête judiciaire, celle-là, était parallèlement en cours. 200 plaintes ont en effet été déposées contre le géant laitier. Alors si les parlementaires ont totale liberté pour décider ou non de continuer leur enquête, l'usage veut que leurs travaux aient toujours lieu après les décisions de justice, si décision il y a, pour laisser justement la justice faire son travail et éviter ainsi les soupçons d'influence. Dans ce dossier, et c'est assez rare, les députés ont donc choisi de mener leur enquête de façon concomitante, peut-être sous la pression des familles, des bébés infectés, peut-être à cause de la pression de l'opinion aussi, et peut-être enfin à cause de la mauvaise volonté du groupe Lactalis et de son PDG, qui n'a pas semblé vouloir prendre immédiatement la mesure du problème et qui a discrètement relancé son activité dans l'usine de Cran, alors que le gouvernement avait promis aux familles que cette production de lait serait stoppée tant qu'on ne saurait pas d'où vient cette salmonelle.